tous les premiers mardis de chaque mois.
Les rendez-vous de la peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
À 19h sur l'autre radio.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Les rendez-vous de l'APES, l'émission de l'économie sociale et solidaire qui met en avant les activités et les acteurs et actrices de l'ESS en Mayenne. Je m'appelle Jeanne Rosier et je suis chargée d'accompagnement et de développement au sein de l'association APES 53. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Libaud, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es donc responsable animation territoriale et prospective au sein de France Active Pays de la Loire, c'est bien ça ?
C'est exactement ça.
D'accord. Et donc le mouvement des entrepreneurs engagés, c'est par ces quelques mots que l'on est accueilli lorsqu'on consulte votre site internet. En effet, France Active est un mouvement associatif national dont l'objectif est d'apporter soutien et accompagnement aux associations et aux très petites entreprises, qu'elles soient en phase d'émergence, de création, de lancement, d'évolution et de transmission.
Tout à fait, toute phase de vie, exactement.
Okay. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur France Active, son histoire, ses missions, son fonctionnement ?
Oui, je vais commencer par France Active, parce qu'effectivement c'est l'association nationale auquel on se réfère, nous, à France Active Pays de la Loire. Donc c'est une association qui a été lancée par une figure tutélaire qui s'appelle Claude Alfondéry, qui est un ancien banquier, un ancien résistant, et qui a souhaité, à une période particulière de l'histoire de l'économie et de l'emploi en France, avant les années 90, créer un mouvement qui permette de financer des personnes qui pouvaient avoir des caractéristiques sociales un petit peu difficiles, très clairement des demandeurs d'emploi, pour créer leur entreprise. Et ce, à travers des outils financiers, mais qui ne sont pas des outils financiers du monde classique de la banque, mais des outils particuliers. C'est à la fois accompagner un public particulier, avec des méthodologies qui sont totalement classiques dans le monde capitaliste, mais qui sont faites avec un pas de côté et différemment. Et donc ça, c'est plutôt l'idée initiale. Donc là, clairement, on ne parle pas d'ESS jusqu'à présent. On parle de création d'entreprise. Et puis, il y avait une autre idée, c'était qu'au-delà d'accompagner des personnes, c'était aussi appuyer les structures collectives qui les accompagnaient elles-mêmes. Dans les années 80, c'était le lancement de l'insertion par l'activité économique en particulier. Donc voilà, il y avait aussi cette idée d'accompagner ce type de structure, principalement associative à l'époque, et même aujourd'hui, on trouve beaucoup d'associations. Donc ça, c'est France Active. Aujourd'hui, les organisé avec une association qui regroupe toutes les associations territoriales dont France Active Pays de la Loire fait partie. Et puis, pour nous permettre d'engager des ressources financières et de les collecter, il y a également des sociétés financières, une qui s'appelle France Active Investissement, qui permet de collecter en particulier de l'épargne salariale solidaire pour la réinvestir auprès d'entreprises, et puis une qui s'appelle France Active Garantie, qui permet de collecter des fonds, dont des garanties d'État, qui permettent de garantir des emprunts bancaires pour des créateurs d'entreprises ou des créatrices qui sont demandeurs d'emploi. Ça, c'est France Active. Nous, on a une petite dizaine d'années de décalage dans le temps. France Active Pays de la Loire, dont l'association porteuse s'appelle FONDES, Fonds de Développement Solidaire. Elle a été créée en 1998, principalement par des acteurs, plutôt nantais, et avec une logique assez institutionnelle. Aujourd'hui, notre gouvernance est plutôt une gouvernance institutionnelle. On va retrouver le Conseil régional, la Banque des territoires, BPI, la Banque publique d'investissement, un certain nombre de conseils départementaux, un certain nombre d'agglomérations. Et c'est notre gouvernance. Et de cette création, nous, on a repris les outils de France Active. Donc aujourd'hui, on est l'association territoriale qui met en œuvre ces outils de prêts, de garanties, donc auprès des publics que j'ai décrits, sur les Pays de la Loire. Et puis après, on a un certain nombre d'autres outils qui sont ajoutés, mais je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard.
Oui, tout à fait. D'accord. Et donc du coup, au niveau régional, donc le siège est basé à Nantes, si je ne dis pas de bêtises. Et quelle participation est-ce que vous avez au sein des différents départements ?
Alors, le siège est à Nantes, et pour dire la vérité, c'est essentiellement les fonctions support qui sont à Nantes, avec une équipe d'expertise. Mais après, nous, on a une couverture qui est totalement régionale. Donc, en fait, on a des conseillers dans tous les départements de la région. La Mayenne, la conseillère s'appelle Marion Jarosewski. Voilà, on a une organisation qui est une organisation avec deux pôles territoriaux. Un pôle Sarthe-Anjou-Mayenne dont la responsable s'appelle Khadija El-Mokhtari et qui couvre donc ces trois départements. Et puis un pôle Loire-Atlantique-Vendée dont la responsable s'appelle Céline Alain et qui couvre là aussi ces deux départements. Donc avec des équipes de conseillers dédiés, sachant que, je reviens à ce que je disais, quand je disais la fonction support, l'essentiel de nos collègues qui s'occupent de la mise en œuvre des conventions, des prêts, des garanties sont à Nantes. Mais par contre, tous nos collègues qui sont en lien avec les associations, les entreprises, sont vraiment sur les départements. C'est à la fois une logique de couverture territoriale en lien avec notre terrain de jeu. C'est aussi quelque chose d'essentiel en termes d'ancrage et de connaissance du territoire, connaissance de ses acteurs, qu'ils soient acteurs financiers, je pense aux banques, qui elles-mêmes fonctionnent avec... des logiques d'agence et puis en tout cas des logiques territorialisées, mais après tous les réseaux du développement économique, les réseaux sectoriels associatifs, réseaux de l'économie sociale et solidaire, on a souvent des organisations territoriales et départementales. On travaille aussi nous beaucoup avec les développeurs économiques que sont les collectivités territoriales, communautés de communes en particulier, communautés d'agglomération. Voilà, tout ça se fait à une échelle territoriale du département, donc on a cette obligation, cette nécessité d'avoir des équipes au plus près du terrain.
D'accord, merci. Et donc aujourd'hui, voilà, après cette présentation de France Active et France Active Pays de la Loire, on va faire un focus sur un des leviers que vous proposez, qui est le DLA. Donc le DLA, c'est le dispositif local d'accompagnement. Et c'est un dispositif qui est proposé notamment au secteur associatif. Il faut savoir que dans les Pays de la Loire, on recense plus de 80 000 associations qui mènent de nombreuses actions grâce à l'implication de quelques 700 000 bénévoles et près de 140 000 personnes salariées. Voilà, mais du coup, on va voir un petit peu le DLA, qu'est-ce que c'est. Tout d'abord, c'est un dispositif qui a été créé en 2002 par l'État et la Caisse des dépôts avec le soutien du Fonds social européen et l'appui ensuite du mouvement associatif. Et donc, c'est un accompagnement sur mesure qui est proposé aux structures employeuses de l'ESS, qui est gratuit, en tout cas financé, et qui est réalisé par des experts. Et donc, dans la région, le DLA est porté notamment par France Active.
Voilà. Il y a plusieurs acteurs, en fait.
D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Je vais tout vous dire. je vais ancrer le dispositif un petit peu dans l'histoire, alors sans être... trop long et rébarbatif, mais ça permet quand même d'illustrer ce pourquoi il a été fait et le périmètre de son intervention. En fait, le DLA, vous l'avez dit, 2002, alors pour les plus jeunes auditeurs, ça n'a pas forcément parlé, mais c'était une époque où était créé en parallèle, voire avant, le mouvement, le dispositif emploi jeune. Donc en fait, il y a eu une injection massive d'aide à l'emploi de la part de l'État, notamment auprès de structures qui devaient créer des nouveaux services. Autant vous dire que le secteur associatif était en pointe par rapport à ça, puisque, je ne peux pas dire par nature, mais en tout cas, le secteur associatif a cette capacité d'innovation sociale qui fait qu'il a tout de suite vu une opportunité, entre guillemets, pour pouvoir développer des projets en s'appuyant sur des compétences de jeunes professionnels. Et assez rapidement, l'État, notamment, s'est rendu compte qu'au-delà du financement des postes, en faisant un pas de côté, il y a très probablement des nécessités de financer aussi les structures elles-mêmes, en tout cas de les conseiller justement dans cette nouveauté qui était celle de la fonction employeur. Donc le DLA est parti de là. C'était du financement de conseils effectivement à des structures qui pour beaucoup découvraient cette marche particulière qui est celle de l'emploi, donc devenir entre guillemets, un acteur économique à part entière, avec des règles juridiques, notamment vis-à-vis des salariés qui s'appliquaient. Donc tout un corpus de nouvelles règles, de nouvelles normes à respecter, puisque là, on relève clairement du droit, voire du droit social, donc on ne joue pas avec. Et donc, cette capacité de l'État à pouvoir accompagner ce mouvement de professionnalisation et de monter en compétence aussi des organisations. Et donc, ça a été le DLA. Donc, tu l'as rappelé, Jeanne, à l'initiative, on avait l'État, la Caisse des dépôts et consignations, tout de suite pour cofinancer. Et aujourd'hui, dans les pilotes financeurs du dispositif, on a également le Conseil régional des Pays de la Loire, plus le Fonds social européen. Donc, toutes ces organisations-là nous permettent d'avoir des fonds qui nous permettent de faire plusieurs choses, à la fois accueillir les structures quand elles désirent un DLA. Cet accueil, j'ai envie de dire, c'est un peu un moyen de valider l'éligibilité des structures qui viennent chercher le dispositif au DLA. Alors, on est sur des critères d'éligibilité qui sont très larges. Il y a finalement deux critères qui sont le plus important. Il faut que la structure fasse œuvre d'utilité sociale. Donc dans les associations, dans quasiment 100%, il y a cette caractéristique-là. Mais on va un peu au-delà. Hein. On peut également accompagner des coopératives, SCOP, SCIC. On peut même accompagner des entreprises classiques dès lors qu'elles sont éligibles et en tout cas détentrices d'un agrément qui s'appelle ESUS, Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale. Ça leur permet de rentrer dans le périmètre du DLA. Donc l'accueil nous permet de bien valider l'éligibilité. Le deuxième élément d'éligibilité, il faut qu'elle soit employeuse. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de possibilité de DLA. Il y a d'autres dispositifs qui existent. J'ai une affiche Guidasso en face de moi. Donc voilà, le Guidasso peut totalement appuyer des associations qui ne sont pas employeuses. Le DLA se concentre sur ce périmètre-là. L'accueil permet de bien définir que la structure est dans cette éligibilité. Puis ensuite, là, on la prend un peu par la main. Nos conseillers les rencontrent. Ont tout un travail de diagnostic qu'on partage avec eux. L'idée étant de faire un 360 degrés sur les aspects de projet, sur les aspects d'activité, sur les aspects de partenariat, de modèle économique, d'organisation interne, bénévoles, salariés, pour investiguer ou en tout cas analyser toutes ces dimensions-là pour être en mesure, en sortie, de dire sur ces aspects-là, il n'y a pas de problématique. Par contre, là-dessus, effectivement, on peut sentir une fragilité. Alors, souvent, elles sont déjà perçues par les dirigeants, mais parfois, on les révèle aussi à travers ce diagnostic. L'idée étant, derrière, pour poursuivre, c'est de trouver les moyens de le résoudre et il y a plusieurs moyens pour ce faire. C'est le DLA a la capacité à pouvoir financer, c'est ce que tu disais, Jeanne, des cabinets conseils extérieurs pour travailler sur une problématique en particulier. On a aussi cette vocation à être relais d'informations auprès de ressources territoriales qui peuvent compléter aussi cet accompagnement, voire aller sur un accompagnement complémentaire. Et puis dans tous les cas de figure, on fait pour toutes les structures qui ont bénéficié d'un accompagnement un suivi l'année qui suit l'intervention. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on a le pack complet du DLA tel qu'il a été posé il y a aujourd'hui plus de 20 ans. Ouais.
D'accord, merci. Et du coup, est-ce que tu as des chiffres à nous donner sur, par exemple, en majorité, quelle est la thématique ou la problématique qui est posée par les structures ? Ce qui me semble, comme tu disais, qu'elles arrivent souvent avec un problème qu'elles ont identifié. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les structures qui sollicitent des DLA, elles sont partie prenante de la démarche, c'est pas un audit extérieur, elles doivent participer.
Ouais, c'est très important ça, tu fais bien de le rappeler, c'est effectivement pas un audit extérieur, il y a une démarche volontaire de la part des structures. Finalement, le DLA, mais ça renvoie à son origine, c'est pour des structures qui, pour le coup, qui sont peu habituées aux conseils externes et qui ont peu de moyens, c'est la capacité à leur faire accéder à ce conseil externe. Je reprends le terme en les tenant par la main. Alors, il n'y a pas du tout d'infantilisation dans ce terme-là, mais on est quand même sur quelque chose qui n'est pas forcément naturel. On ne sait pas forcément à qui s'adresser, on ne sait pas combien ça va coûter. Donc, le DLA permet de franchir ces étapes haut la main. En matière de chiffres, d'objets d'accompagnement. J'ai commencé par les objets d'accompagnement. Alors, par essence, le dispositif est très large. Quand on arrive dans une association, on n'a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas d'industrialisation du dispositif. On part vraiment de ce qu'elle nous exprime, de là où ses soucis, ses fragilités, elle les exprime. On part vraiment de là. Après, c'est clair que si a posteriori on regarde un petit peu sur une cohorte entière, il y a quand même deux gros sujets qui se dégagent, et ça c'est transverse depuis 20 ans. Il y a tout ce qui concerne la partie projet stratégie, donc là qui tourne plutôt dans une logique donc de projection d'activité et de modèle économique. Voilà. Et l'autre gros corpus d'intervention, c'est tout ce qui concerne l'organisation interne. Donc là, c'est plutôt de l'outillage sur des aspects de gestion. C'est plutôt de l'outillage ou du travail sur l'organisation interne, la répartition des tâches entre les bénévoles et les salariés. Toute cette partie plus interne. Un peu transverse à ça, on a toutes les logiques partenariales, parce que pour beaucoup d'associations, on est dans des modèles économiques qui sont hybrides, hein, où on retrouve une part d'activité, une part d'adhésion, mais aussi une part publique sous forme de subvention. Donc avec un paysage qui depuis 20 ans a beaucoup évolué, hein. Il y a eu un certain nombre de lois, les lois NOTRe, avec des répartitions de champs de compétences qui font que des structures qui pouvaient être multifinancées par plusieurs échelons territoriaux de collectivités territoriales aujourd'hui le sont parfois moins. Donc c'est autant de sujets là qui peuvent générer des interrogations, et pour lesquels il est heureux qu'il puisse y avoir des organisations qui amènent de la réflexion, qui permettent de générer des solutions. Sachant que là-dessus, je passe un petit message, le conseil, c'est jamais miraculeux, hein. Finalement, c'est jamais qu'un aiguillon pour amener les structures à avoir les bonnes réflexions, surtout des éléments de cadrage plus que de solutions toutes faites, parce que le dispositif a pas non plus forcément les moyens pour dans la prise en main des choses aller forcément très très loin. Aujourd'hui, on a une capacité d'intervention qui est de 4-5 jours par structure bénéficiaire. Donc c'est déjà pas mal, mais on sent que pour certaines, il y aurait besoin parfois de plus. En tout cas, c'est ce qu'elles nous expriment. Elles aimeraient bien, souvent en fin d'accompagnement, elles nous disent « c'était super ». Par contre, on aurait bien aimé que ça continue. Et là, c'est un peu cornélien, on n'a pas toujours les solutions. Voilà.
C'est un point de départ pour évoluer et pérenniser les activités et les emplois.
Tout à fait.
Très bien. Merci pour toutes ces premières informations. On va maintenant faire une petite pause musicale avant de revenir sur l'autre radio pour continuer à parler du DLA. Et on va maintenant écouter Concrete Jungle de Bob Marley, un clin d'œil à l'actualité cinématographique. À tout à l'heure.
Darkness has covered my light and has changed. chains around my feet, but I'm not free. Whoa. I know I am bound in captivity.
L'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
Nous revoilà dans l'émission Les rendez-vous de l'APES sur l'autre radio et nous sommes en compagnie de Philippe Libaud qui est responsable animation territoriale et prospective chez France Active Pays de la Loire. On parle du DLA, donc le dispositif local d'accompagnement qui est proposé aux structures employeuses de l'ESS et qui vient leur proposer des accompagnements sur mesure pour pouvoir évoluer dans leur mission. Comment ça se passe quand une structure de l'ESS veut initier un DLA? Qui intervient? Comment est-ce qu'elle lance la démarche auprès de vous? Comment est-ce que ça se passe plus concrètement?
Concrètement, l'idée première, c'est de nous appeler ou nous contacter par mail. Je ne sais pas si les références seront données, mais du coup, je vais donner notre numéro de téléphone. C'est un numéro unique qui est le 0230 300 400. Donc là, les structures tombent sur mes collègues à l'accueil et donc qui font ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc je vais passer ces étapes-là. Effectivement, je vous ai donné les grands principes. Par contre, concrètement, une fois que nous on a fini entre guillemets notre travail de diagnostic, il y a une étape qui est systématique et incontournable, c'est la validation de ce diagnostic et de la proposition d'accompagnement par la structure. On ne fait rien tant que la structure nous a pas dit ouais, on est d'accord avec le constat que vous posez et puis avec la solution que vous proposez. En tout cas, la solution d'accompagnement que vous envisagez. Donc ça, c'est une étape, c'est un préalable. Et une fois qu'on a ce mandat, entre guillemets, de la part de la structure, nous, on recherche des prestataires extérieurs qui sont en capacité d'intervenir auprès de l'association. Nous, on a une recherche qui est... Un minimum, c'est trois prestataires extérieurs qu'on met en concurrence. On peut aller à plus, soit parce qu'on est parfois sur des sujets qui sont un peu pointus et pour lesquels on ne sait pas s'il y aura des réponses au cahier des charges, soit pour des périodes type période estivale, où là, on n'est pas sûr que tout le monde sera présent. Donc, on envoie des bouées un peu plus nombreuses qu'habituellement, mais le minimum, c'est 3. Et donc, on gère toute cette partie-là. On fait le choix du prestataire qui nous semble mieux adapté à pouvoir répondre à l'association. Alors, c'est un choix qui se fait sur la base d'un écrit, qui est une proposition d'intervention. C'est un choix qui se fait aussi par rapport à la connaissance qu'on peut avoir des prestataires qu'on a sollicités. On sait très bien qu'il y a certains prestataires donc, qui sont des cabinets conseils. Alors, pour les illustrer, ça peut être parfois des cabinets d'expertise comptable, ça peut être des consultants qui sont généralistes dans le fait associatif, ça peut être des consultants qui sont spécialisés dans un secteur, qui connaissent très bien la culture et toutes ses dimensions, qui connaissent très bien le monde sportif et toutes ses, sportif, et toutes ses dimensions. Voilà, on fait vraiment le choix au sein de prestataires qui ont quand même une spécialisation en lien avec les questions que doit traiter l'association. Mais voilà, on sait que certains sont parfois très pédagogues, ils vont vraiment accompagner, faire beaucoup de pédagogie, ne pas heurter les choses, donner des méthodologies un peu douces, des plans d'action dans la durée. Et pour certaines associations, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Donc c'est un élément de choix complémentaire. À côté de ça, on sait qu'on a des prestataires qui sont plus pushing, qui vont être un peu poil à gratter, qui vont faire avancer les réflexions. Et voilà, on peut avoir le ressenti que l'association, c'est ce dont elle a besoin à un instant T. Alors, ce n'est pas une science exacte. Hein, parfois, on se trompe. Il faut l'accepter. C'est jamais facile parce que voilà, on sent une forme de responsabilité. On utilise des fonds publics et puis on travaille avec une matière qui est une matière très humaine. Donc, on n'a aucun intérêt à heurter. L'objectif, c'est quand même ce que tu as dit, Zane, de consolider des projets, leurs emplois. Voilà. Mais ça peut arriver. Donc, on essaie d'avoir ces arbitrages-là qui sont différents de juste une lecture d'un devis ou d'une proposition. Et puis, une fois que le choix est fait, bah, finalement, c'est comme si l'association avait elle-même fait ce choix. Alors, qu'on lui impose d'un certain point de vue, mais en tout cas, après, nous, on se retire et c'est vraiment comme s'il y avait eu un choix de l'association de gré à gré avec l'accompagnateur et le travail réel, concret, se fait entre eux. Et à la finale, nous, on demande le bilan qui soit transmis à l'association avec les préconisations claires. Nous, on récupère ça, on récupère la facture et on paye le prestataire. Donc effectivement, on n'utilise jamais le terme de gratuité parce que c'est pas gratuit, c'est juste que la prise en charge des coûts directs de l'accompagnement sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, l'État et puis le Conseil régional et le Fonds social européen. Voilà.
D'accord, oui, donc en fait, vous avez vraiment un rôle d'intermédiaire entre les structures employeuses et entre voilà, les prestataires qui vont intervenir, et puis un rôle de financeur, vous prenez en charge voilà, avec l'appui financier d'autres structures pour que les structures puissent avoir recours facilement à ce dispositif qui est le DLA et que la question financière ne soit pas un frein pour elles.
Exactement. Ouais, au-delà du financier, moi je prends souvent la métaphore médicale. D'un certain point de vue, nous, opérateurs DLA, on fait un peu fonction de médecin généraliste. Et on fait appel ou on oriente vers un médecin spécialiste qui est lui le cabinet conseil, qui est lui celui qui travaille dans la profondeur avec l'association. Sachant que nous, on reste le fil rouge de l'ensemble de l'accompagnement et à tout moment dans l'accompagnement, c'est nous les référents du fait que ça se passe bien. Et on peut être amené, si ça se passe pas bien, parce que ça arrive de temps en temps, à recadrer les uns les autres. On a cette vocation-là, en tant que gestionnaire du dispositif, à faire que tout se passe pour le mieux.
D'accord. Est-ce que tu sais, Philippe, à peu près combien de temps ça dure un DLA ? Ça dépend vraiment en fonction des structures accompagnées ou est-ce qu'il y a une durée moyenne ?
Alors, il y a une durée théorique et puis dans la réalité, parfois, ça peut être un peu différent. La durée théorique, nous, une fois que le cahier des charges est validé, qu'on a fait la mise en concurrence, qu'on a choisi le prestataire, dans les conventions qu'on signe avec l'ensemble des parties prenantes, c'est une durée théorique de 3 mois. sachant que c'est une durée qui peut être variable. Dans certains cas de figure, ça peut demander un petit peu plus de temps. Et là intervient une forme de juge de paix qui est celui de nos propres conventions. C'est-à-dire qu'on a peu de capacité à faire dépasser les accompagnements au-delà de l'année civile. Dit autrement, quand les structures viennent nous voir tôt dans l'année, y a des petits dépassements, c'est possible. Quand elles arrivent en septembre, avec les 3 mois dont je vous parle, on est vite en décembre et le dépassement, on peut pas se le permettre parce qu'on a un certain nombre de nos financeurs qui sont vraiment sur l'année civile et qui ce cadre-là nous met en porte-à-faux. Donc on est assez clair avec les structures. Si vraiment elles anticipent le fait que pour des questions d'organisation, pour des questions d'absence d'un dirigeant majeur, d'un administrateur majeur, ça va pas pouvoir se faire. À ce moment-là, on échange avec eux souvent on privilégie de décaler sur le début d'année suivante pour permettre ça. Donc il y a vraiment une souplesse par rapport à ça pour vraiment s'adapter aux conditions des bénéficiaires. Il faut que ça leur serve dans toutes les dimensions. Mais on a le dispositif à ses propres contraintes, donc on est obligé parfois de faire avec, mais généralement ça se passe très bien.
D'accord. Et est-ce que tu as un peu une idée de combien de structures ont été accompagnées, par exemple sur l'année 2023
Oui. En 2023, on a accompagné en Mayenne 17 associations. On a la capacité à le faire avec deux modalités. Soit ce sont des accompagnements individuels, on va dire c'est la modalité classique et celle qu'on voit le plus souvent. On peut accompagner également dans des modalités plus collectives. Là, il y a plusieurs formules. La formule classique du collectif, c'est deux structures, trois structures qui ont un projet commun, qui veulent réfléchir ensemble. Et là, de fait, on est sur un accompagnement collectif. Et donc, on a cette capacité à faire réfléchir ensemble plusieurs associations. On a parfois des collectifs qui sont créés autour de réseaux associatifs qui viennent avec une problématique commune qui concerne plusieurs de leurs adhérents et auquel cas on a aussi cette capacité à accompagner ces réflexions-là. Et puis il y a une troisième formule qui est plus en prospective, en tout cas plus à notre initiative, qu'une formule d'appel à manifestation d'intérêt. On sait qu'il y a un sujet qui est un peu transverse au monde associatif. On veut mettre un focus dessus. Donc là, on propose plutôt un sujet un peu tout fait. C'est un peu, à côté des accompagnements habituels, on est vraiment en réception de demandes. Là, on a cette capacité à proposer. Et puis, s'il y a des structures qui sont intéressées, elles peuvent se signaler. Puis après, on reprend les choses telles que je les ai décrites. Là, ça peut être des sujets comme le numérique, des sujets comme... Qu'est-ce qu'on a fait ? On en a fait beaucoup d'AMI autour du Covid sur la stratégie commerciale, par exemple. Comment reprendre une fois que les adhérents pendant la période Covid étaient plus là ? Comment reprendre pied ? Comment retrouver un fonctionnement un peu plus classique, enfin, pré-Covid ? Donc voilà. Mais là-dessus, c'est assez. Les sujets sont très vastes. Ça dépend vraiment aussi des feedbacks qu'on a parfois du terrain. Donc trois formules sur le collectif, mais principalement, l'année dernière, sur les 17, 15 ont été accompagnés en individuel.
D'accord. Ok. Alors, je voudrais revenir rapidement sur ces accompagnements en collectif. Je trouve ça intéressant. Est-ce que l'idée, c'est vraiment d'avoir presque des groupes de travail sur des thématiques pour pouvoir partager des expériences et après rediffuser l'information au sein du réseau ESS, par exemple? Ou est-ce que ça vient répondre à une question qui se retrouve dans toutes ces structures participantes pour qu'elles puissent évoluer après individuellement?
C'est plutôt la deuxième formule. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le DLA, et ça c'est quelque chose sur lequel les pilotes sont très attentifs, on n'est pas sur une logique de formation. Il y a vraiment une dimension d'accompagnement qui est au cœur du dispositif. Donc il faut véritablement que la structure y retrouve des éléments qui en sortie lui servent à elle. Mmh. Par contre, la dimension collective, elle a d'autres vertus. Il y a la vertu de l'échange collectif autour d'un sujet, de voir comment les uns les autres font. Et alors, ça, habituellement, c'est plutôt les réseaux qui le font très bien. Mais dans un cadre de DLA, ça a un vrai intérêt. Et puis, l'autre élément, c'est qu'il y a quand même un conseiller, enfin, un cabinet conseil avec chacune des structures. Donc, en général, on essaie de traiter les choses en faisant du semi-collectif. En vérité, il y a une partie collective qui est vraiment commune à tous, et après on essaye d'individualiser une partie pour que ça distille, ça aille au plus proche des besoins des structures qui sont concernées. Et donc c'est des petites cohortes, c'est rarement plus de 5 structures. Hein. Alors que la première formule, de mon point de vue, enfin telle que je le lis, on est plutôt sur des logiques où ça peut concerner beaucoup plus. Donc voilà.
D'accord, merci. Et donc, je suis un peu curieuse de savoir, Philippe, si tu as des exemples de structures qui ont été accompagnées en Mayenne sur des DLA. Quelle structure, quel type de forme juridique ça peut être, peut-être, les thématiques
Alors, au niveau des structures juridiques, c'est à 95% des associations. Mmh. Les 5% étant des structures coopératives, principalement. Alors, par définition, le DLA est vraiment très, très ouvert. Hein. Secteur d'activité, c'est très, très varié. Alors, les gros... dans le secteur associatif, on a certains secteurs qui regroupent beaucoup d'associations. Le secteur culturel, le secteur sportif en particulier. On retrouve également toute la sphère de l'insertion par l'activité économique, l'insertion des travailleurs handicapés. Le secteur de l'environnement qui est également très présent dans le département. Et puis après, on a plein de secteurs dans lesquels les associations sont bien représentées. On va retrouver la formation, tout ce qui concerne l'animation sociale, l'hébergement, les établissements collectifs autour du social, du médico-social. Donc vraiment, le terrain de jeu est très vaste. Là, j'ai pris plusieurs exemples, alors sans citer les noms évidemment, mais on va retrouver par exemple une structure d'insertion par l'activité économique qui était confrontée à une réalité économique qui était celle dans laquelle on se trouve actuellement, de forte inflation. Qui avait un impact significatif sur tout ce qui concernait l'énergie et puis la masse salariale, puisqu'on était sur une structure d'insertion par l'activité économique, je ne vais pas dire industrielle, mais en tout cas qui avait des bâtiments, qui avait du matériel, donc voilà, qui avait de la logistique. Donc tout ce qui concerne l'énergie, les matières premières, la masse salariale, ça avait un impact sur son modèle, qui est un modèle par ailleurs assez contraint par un certain nombre de règles. Donc, elle avait besoin de réinterroger son modèle économique. Donc là, le cabinet conseil a mené une prestation autour de la faisabilité du développement de nouvelles activités. Avec ses corollaires, c'est-à-dire un appui au chiffrage prévisionnel, donc ça c'est plutôt la partie économique, et également tout ce qui est besoin financier d'investissement de trésorerie lié à ce développement, et puis d'appui à la stratégie économique et de repositionnement de l'offre. Donc voilà. Ça, c'est un type d'accompagnement, alors qui n'est pas réservé par aux structures d'insertion par l'activité économique, mais ça fait partie des grandes familles de ce que je vous ai dit précédemment. Je vais peut-être prendre un autre exemple où là, on est sur l'autre grande famille qui est celui plutôt de l'organisation. Là, ça concerne une association sportive qui a été appuyée dans un contexte d'évolution générale. Alors, au niveau macro de la gouvernance du sport, et puis au niveau micro, de constats de difficultés à mobiliser de nouveaux bénévoles. Au niveau de sa gouvernance, mais aussi même au niveau de l'encadrement de ses équipes sportives. Donc là, il y a eu tout un travail de définition de l'organisation interne pour redéfinir la répartition des tâches entre l'équipe salariée, entre les bénévoles. Et quand je dis responsabilité des tâches, si on crante en dessous, c'est les questions de responsabilité, ce sont les questions de modalité du management, les questions de capacité à en mettre en œuvre et de développer de nouvelles activités. Donc c'est tout ça qui a été, c'est tout ça qui a été travaillé. Donc des exemples, j'ai envie de dire, l'année dernière, il y a 17 projets différents qui sont autant d'exemples, puisque même s'il y a des grandes constantes, tous sont différents.
Oui, c'est vraiment adapté à chaque fois à la problématique de la structure et du coup, il y a une variété d'interventions vraiment importantes. Merci pour ces exemples. J'aimerais faire un petit point d'actu. Si je ne me trompe pas, c'était récemment le premier anniversaire de la création du centre de ressources DLA Transformation écologique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous parler un petit peu des centres de ressources DLA, s'il te plaît?
Oui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent de l'organisation générale, c'est-à-dire que je vous ai parlé un petit peu du DLA, on a parlé rapidement de France Active. Je vais le faire à l'envers, je vais commencer par le local. En fait, effectivement, le DLA en Pays de la Loire, c'est, à la vérité, c'est pas seulement France Active Pays de la Loire, il y a plusieurs autres acteurs. On a dans le département voisin de la Sarthe le centre d'études et d'action sociale de la Sarthe, qui est l'opérateur du DLA sur ce département, et puis un petit peu plus loin en Vendée, on a également le centre d'études et d'action sociale de Vendée qui travaille pour le DLA 85. Donc ça, c'est trois opérateurs départementaux, enfin deux opérateurs et nous sur le département. Et puis on a également un DLA à l'échelle régionale qui est porté par le mouvement associatif et la CRES. C'est un coportage et au niveau du DLA régional, ils ont la capacité à accompagner des associations d'envergure régionale. Et puis aussi à animer le dispositif dans sa relation notamment avec les pilotes. Ça se fait plus au niveau départemental qu'à notre niveau, même si on a des réunions régulières ensemble. Mais voilà, c'est leur mission. Et puis si on remonte d'un cran, effectivement au niveau national, on a un opérateur national qui est en lien avec les pilotes financeurs nationaux qui s'appelle l'AVIS. Et puis dans l'organisation, il y a des centres de ressources sectorielles. Il y en a sur beaucoup de sujets. Il y a un centre de ressources sur la culture qui est porté par une association qui s'appelle Opal. Il y a un centre de retour sur les financements qui est porté par France Active. Il y a un centre de ressources sur le sport qui est porté par le CNOSF, donc le mouvement olympique et sportif. Et puis effectivement, le dernier né de ces centres de ressources, je pense pour marquer des éléments d'évolution sociétale, c'est celui sur la transition écologique. Et donc, effectivement, dont c'est l'anniversaire. Donc, les centres de ressources, eux, leur vocation, c'est d'apporter aux conseillers qui sont conseillers de terrain dans n'importe quel DLA de France des éléments de connaissances sectorielles parce que on n'a pas forcément toujours une connaissance fine de ce qui se passe dans l'insertion par l'activité économique, les problématiques qui traversent l'insertion des travailleurs handicapés, les questions aujourd'hui qui traversent le secteur sportif. Donc on a la capacité en tant que conseiller à aller chercher cette ressource directement en allant interroger ces centres de ressources qui sont là pour ça. Donc c'est une vraie richesse parce que ça permet de à la fois une veille sectorielle et puis une capacité assez rapide à aller chercher des infos, finalement qui alimente le travail de terrain. C'est-à-dire qu'il y a à la fois toute l'information qu'on trouve directement auprès des dirigeants qu'on rencontre sur leurs problématiques propres, mais on est en capacité de le lier avec des informations plus larges qui mettent en perspective un petit peu les problématiques. Parfois, ça peut permettre justement d'aller sur des accompagnements collectifs parce qu'on sait qu'il y a une problématique qui concerne plusieurs structures. J'ai une collègue qui est très en veille sur tout ce qui est le virage domiciliaire dans les structures locales de santé, soit infirmiers, services à personne. Donc voilà, et qui potentiellement on sait que c'est des éléments qui vont faire évoluer l'organisation et les manières dont le travail de terrain est mené. Donc possiblement ces évolutions-là, c'est autant d'éléments de pas d'alerte, mais en tout cas d'attention sur le fait qu'il peut y avoir du conseil dans ce secteur-là pour accompagner les dirigeants à prendre les bonnes décisions, sachant que je le redis toujours, il y a également les réseaux associatifs qui peuvent être là comme ressources.
Mmh. Oui, on voit que les thématiques évoluent. On va en reparler après, mais on va faire maintenant une nouvelle pause musicale avec Old Man de Neil Young.
Oh, hi Larry. Where's Larry? This is Larry from the crew here. Come out to give us a little music. My life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, 24. So much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed.
Les rendez-vous de la peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
Nous sommes de retour sur l'autre radio dans l'émission Les rendez-vous de la peste et nous sommes toujours avec Philippe. Je rappelle que tu es responsable animation territoriale et prospective chez France Active Pays de la Loire. Tu nous as présenté le DLA, donc le dispositif local d'accompagnement qui est proposé aux structures employeuses de l'ESS. Et je propose maintenant qu'on fasse un petit voyage dans le temps. Si je ne me trompe pas, tu es salarié de France Active depuis 2005.
Oui. Et... bah, je croyais que le voyage dans le temps, bah, c'était juste les chansons.
Ouais.
C'est moi aussi, d'accord.
Ouais. Quelles évolutions est-ce que tu as pu constater au fil de ces années ?
Ah, alors la première, la grosse évolution, je trouve que... il y a une professionnalisation du monde associatif, en tout cas employeur, hein, qui est véritablement, j'allais dire, sans commune mesure avec celle de 2005. Aujourd'hui, c'est rare les structures qui n'ont plus d'éléments financiers de type bilan, compte de résultats. C'est rare les structures qui bricolent ou en tout cas qui traitent la dimension sociale vis-à-vis de leurs salariés. Donc les aspects de dur, hein, pas le management, mais sans faire appel à des professionnels. Il se trouve qu'en plus dans l'environnement, il y a des structures, y compris associatives, qui le font. Donc ça a été une vraie évolution. L'autre élément, c'est quand même la relation avec la puissance publique. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus de financement sous forme de subventions pures. Subventions générales pour le fonctionnement. On en voit encore, hein, mais aujourd'hui c'est un petit peu plus rare. Les financements publics sont toujours là, hein, c'est une ressource qui est importante pour le secteur associatif, mais aujourd'hui qui est beaucoup plus formalisée sous forme d'appel à projets. On le sent. Enfin, il y a beaucoup de gouvernances associatives qui disent qu'aujourd'hui, d'un certain point de vue, elles se retrouvent dans une logique un peu concurrentielle avec d'autres. Ça, c'est une évolution aussi. Ça m'est arrivé, moi, de voir... Alors, c'est pas fréquent, mais ça m'est arrivé de voir dans un autre département des gouvernances qui ont même carrément dit... nous, aujourd'hui, dans l'environnement qui est le nôtre, ils étaient dans le domaine de la formation, avec des financements publics qui sont exclusivement sous forme d'offres ou d'appels à projets. Notre fonction politique en tant que dirigeant, en tant qu'administrateur, on ne la perçoit plus trop. On va plutôt accompagner nos salariés à transformer l'activité en scope. Ça m'est arrivé de le voir. Ça m'est arrivé de le voir parfois. Donc, cette relation avec la puissance publique, qu'elle soit d'État ou sur des échelons inférieurs, collectivités territoriales, je trouve qu'elle a évolué. Et puis le dernier élément un peu palpable, c'est que c'est plutôt aujourd'hui l'utilité sociale. Il y a 20 ans, elle était incarnée quasiment exclusivement par les associations. Aujourd'hui, les associations sont toujours très présentes pour incarner cette utilité sociale, mais on voit quand même qu'il y a un certain nombre de dirigeants, notamment des jeunes, qui sont peut-être moins dans des approches collectives. L'association, on est dans une approche collective pure et dure. Hein. Il y a des jeunes entrepreneurs sociaux. Je dis des jeunes parce que souvent... souvent assez générationnel, qui vivent l'utilité sociale dans un projet personnel. Mmh. Et donc, du coup, qui vont peut-être plus naturellement vers des modèles entrepreneuriaux, y compris des modèles entrepreneuriaux qui ne sont pas collectifs, je pense au SAS, quand il y a une période, les modèles entrepreneuriaux pouvaient être aussi incarnés par du collectif, donc plutôt en modèle coopératif. Donc ça c'est peut-être les trois différences que je verrais par rapport sur 20 ans de recul. Mais c'est pas gentil ça.
Je suis vraiment confuse. Est-ce que tu aurais des conseils à partager à des personnes qui portent des projets, qui veulent se lancer ? Est-ce que tu aurais des conseils ?
Ouais, premier conseil, c'est d'essayer de le faire le moins possible seul. c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je disais. Et puis, je ne vais pas être dans une lutte contre les moulins à vent de quelque chose qui est probablement générationnel. Par contre, voilà, on sait que le collectif sur les projets d'économie sociale produit des choses intéressantes avec le croisement des points de vue. Donc ça, c'est intéressant. Ça vaut déjà en interne au projet, mais je l'étendrai sur aussi l'environnement. Il y a quand même un environnement au Pays de la Loire qui est assez riche en termes de structure d'accompagnement. Et donc, ça, c'est quand même une ressource importante pour essayer de gagner quelques étapes. J'ai en face de moi l'APES 53, donc assez naturellement, je pense à l'APES comme peut-être premier élément, premier interlocuteur dès lors que y a un projet qui naît avec une vocation d'économie sociale et solidaire. C'est bien se faire appuyer. Et l'autre élément, alors là, c'est vraiment la casquette France Active qui prend le dessus. C'est nous, beaucoup de porteurs de projets, on voit des projets qui sont vraiment passionnants, hyper, hyper bien, hyper intéressants, mais qui sont très sur le projet. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans modèle économique, déjà, on perd une partie du monde. Encore, modèle économique, c'est quelque chose dont la majorité des gens perçoivent bien. Hein. Ressources, produits, dépenses, les gens perçoivent bien ça. La dimension financière, elle est essentielle. Alors ça, c'est vraiment le parent pauvre des projets en règle générale. Dès lors qu'on parle de trésorerie, dès lors qu'on parle d'investissement, là, je sais pas s'il y a un souci vis-à-vis de l'argent, s'il y a un souci de culture financière, je dis pas de culture économique, mais là on perd beaucoup de monde. Et les plus aguerris de vos auditeurs qui sont gestionnaires ou autres savent très bien que la dimension financière, elle est essentielle. Quand il y a des difficultés, en général, ça arrive par là. Mmh. En tout cas, c'est par là que ça se matérialise. La logique de trésorerie en particulier est essentielle. Donc, bien mesurer l'impact de ces choix de projet sur aussi la dimension de trésorerie. Je dis pas qu'il faut mettre ça au premier plan, mais en tout cas il faut pas le mettre pour le coup sous la table, parce que ça peut donner des projets qui sont super sur le papier mais qui sont irréalisables parce que irréalistes d'entrée de jeu.
Oui, je comprends. Très bien, merci pour ce retour. On va maintenant faire un petit jeu, un petit exercice. Je vais te donner des mots et tu vas me dire ce que ça représente pour toi. Ok.
On va se faire peur.
Alors, pour toi, accompagner, c'est...
Accompagner, c'est donner des méthodologies, donner des éléments de compétences, un apport de compétences pour permettre à un projet de se réaliser et de prendre sa pleine mesure.
Mmh. Pour toi, le local, c'est...
Fondamental. Okay. Je vais juste dire un mot. Ouais, c'est essentiel. Ouais.
Pour toi, être entrepreneur, c'est...
Prendre des risques.
Mm-hmm. Pour toi, la coopération, c'est...
Fondamental.
Aussi.
Ouais, non, c'est la coopération. En plus, s'il y a quelque chose de sympa dans l'économie sociale et solidaire, c'est quand même bien la dimension humaine. Au-delà du sens qu'on peut y mettre, c'est quand même ce lien avec les autres et puis la manière dont on peut ensemble monter des projets. Donc ouais, ça c'est essentiel.
Ok. Pour toi, être engagé, c'est...
Être engagé, c'est avoir une action qui fait sens au niveau sociétal, environnemental, en tout cas qui n'est pas axée exclusivement sur des dimensions économiques, mais voilà, qui ont une dimension sociale, sociétale forte.
Très bien. Est-ce que maintenant tu as une recommandation culturelle à nous partager ? Un livre, un film, une série ou une association
Alors, le dernier livre que j'ai lu, enfin, c'est deux livres en fait. Alors, je pense qu'il n'y a rien de révolutionnaire. C'est pas un livre récent, mais j'ai lu deux livres de Don Winslow sur le trafic de drogue au Mexique. Ah, c'est ouais. Alors, rien à voir avec le SS, et pour le coup, là, on est sur des modalités, je pense qu'on ne peut pas faire plus capitaliste que, que ce qui sous-tend les moteurs de ces personnes-là. Donc, je parle des trafiquants de drogue mexicains, les cartels, mais les deux bouquins, ils m'ont bien scotché. Ouais, c'était très bien.
Ok, je note.
À ne pas laisser entre toutes les mains, par contre, je pense qu'il y a, je ne sais pas s'il y a une interdiction d'âge, mais ouais, c'est un peu... C'est actif.
D'accord, très bien, je note, merci. Alors, on va recentrer un petit peu sur France Active, Pays de la Loire. Est-ce que vous avez des...
Quelle transition ?
Des actualités, ouais. Est-ce que vous avez des actualités à partager ?
Oui, on a une actualité, alors pour le coup, qui... Aujourd'hui, qui ne concerne pas forcément l'économie sociale et solidaire stricto sensu, mais je l'ai dit, hein, acteur du financement d'entreprises, acteur de l'accompagnement avec l'outil DELA, on en a un autre dont on n'a pas parlé, mais on accompagne aussi les entreprises en difficulté. Et puis là, on vient de lancer consécutivement en Loire-Atlantique, c'était en décembre, et là on vient de le faire jeudi dernier à Angers pour Sartonjou-Mayenne, une communauté des entrepreneurs engagés. Qui a vocation à faire un pas de côté par rapport à l'outillage stricto sensu, mais là plutôt mettre en lien des créateurs d'entreprises, des chefs d'entreprise, des associations dans une logique d'engagement, plutôt dans des logiques territoriales. Et donc on vient de lancer ça, donc ça se matérialise par une newsletter, et puis l'année sera organisée autour de différentes rencontres, d'événements, des balades inspirantes, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'actualité brûlante. L'autre qui est un petit peu moins brûlante, mais on est toujours dedans, c'est on vient de lancer aussi un nouvel outil avec le Conseil régional Nantes Métropole et la Banque des Territoires, mais qui concerne aussi les structures mayennaises, un outil qui s'appelle Pays de Loire Capital Impact, qui est un outil de financement pour des entreprises ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire, en tout cas des entreprises engagées qui seraient dans des logiques de changement d'échelle et qui permet un financement patient pour lever d'autres ressources, notamment bancaires. Donc voilà, c'est les deux actualités du moment, ce sont celles-là.
D'accord, et on peut les retrouver donc sur votre site internet,
ouais,
j'imagine ?
Exactement.
Ouais. À quelle adresse ?
www.fondes.fr.
D'accord. Et est-ce que tu veux redonner votre numéro de téléphone si jamais il y a des
oui.
structures qui veulent ?
Pour tous les accueils, on a un numéro unique qui est le 02 30 300 400.
Merci beaucoup. Je vais partager à mon tour les actualités de l'APES 53. Et donc, on a bientôt la visio Entreprendre Autrement, qui est une présentation de ce qu'est l'ESS et comment ça se traduit sur le département de la Mayenne. Ça a lieu le mercredi 27 mars sur l'heure du midi. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y inscrire sur Internet. Et on a aussi notre dispositif d'accompagnement et de pré-incubation MyID qui débute le 3 avril jusqu'à mi-juin. Pour tous les porteurs et porteuses de projets qui ont besoin d'aide et d'un temps collectif pour pouvoir passer de l'idée au projet. Et on a aussi une permanence expert comptable le 29 mars. Inscription en ligne également, donc toutes les infos sont sur le site de l'APES 53. Philippe Libaud, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et bonne continuation au sein de France Active Pays de la Loire.
Merci à vous Jeanne, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous ce soir.
Merci, bonne soirée à tous et à toutes.